Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce numéro spécial du Grand Amoudre. Nous sommes dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne pour le forum Les Idées Claires dans le cadre de la Fête de la Science. La Fête de la Science qui en est à sa 27e édition et qui s'est fixée depuis le début pour objectif de rendre plus accessible la culture scientifique. Alors c'est justement de cette accessibilité dont nous allons discuter au cours des 40 prochaines minutes à travers la question de la vulgarisation. Alors on pourrait dire que les vulgarisateurs sont à la science ce que les traducteurs sont à la littérature, ce sont des passeurs qui rendent compréhensibles des univers dont nous n'avons pas les clés. Leur rôle est d'autant plus nécessaire aujourd'hui que la parole savante est remise en cause, que les connaissances scientifiques sont contestées. La science vit elle aussi au temps des fake news, si vous préférez des infox. Transmettre, expliquer, vulgariser peut aider à composer un autre discours, à condition bien sûr que ce travail de vulgarisation ne se fasse pas au prix d'une trop forte dégradation, voire d'une déformation du savoir initial. Alors comment vulgariser sans falsifier? Bien, c'est la question que je vais poser à mes quatre invités aujourd'hui, à commencer par vous, Marion Montaigne. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur de bande dessinée. On vous doit notamment la série « Tu mourras moins bête ». C'est la science vue par le professeur Moustache, série adaptée en télé pour la chaîne Arte. Pour discuter avec vous, Elena Pasquinelli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, vous vous intéressez de près aux sciences cognitives, vous êtes membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale et avec la fondation à laquelle vous participez, qui a été créée par Georges Charpak, La main à la pâte, vous venez de publier un ouvrage destiné aux enseignants, Esprit scientifique, esprit critique, et c'est sorti aux éditions Le Pommier. Notre troisième invité, c'est Sébastien Carassou. Bonjour.
Bonjour.
Astrophysicien, vous êtes le cofondateur et l'animateur de la chaîne YouTube Sense of Wonder, ce qui en français veut dire
le sentiment d'émerveillement.
Et vous êtes par ailleurs le président du collectif Conscience qui œuvre pour la diffusion de la culture scientifique. Et puis quatrième invité, Cécile Michaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste scientifique, formatrice en vulgarisation. Vous avez d'ailleurs publié un livre à ce sujet chez EDP Science, Vulgarisation scientifique, mode d'emploi. Alors, il faut quand même commencer par un petit travail de définition et on va voir si vous êtes une bonne vulgarisatrice, Cécile Michaud, puisque ça suppose un certain esprit de synthèse. Disons qu'en moins d'une minute, est-ce que vous pourriez nous dire ce que c'est que la vulgarisation et notamment la vulgarisation scientifique?
La vulgarisation scientifique, en fait, c'est partager les sciences avec le plus grand nombre. Donc dans la notion de partage, il y a une notion, je pense, de bienveillance et d'émerveillement aussi, comme disait Sébastien Carassou. Il y a aussi une notion d'écoute, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de diffuser des connaissances, mais aussi de savoir comment le public les reçoit, ces connaissances, et d'entendre aussi éventuellement ses inquiétudes, ses craintes, etc.
Alors, je ne sais pas si nos trois autres invités, Sébastien Carassou, Elena Pasquinelli et Marion Montaigne, se reconnaissent dans cette définition. On va dire que oui, en tout cas, moi, il me semble que vous êtes des vulgarisateurs. Pour quelles raisons est-ce que vous vous êtes lancé justement dans cette démarche? Sébastien Carassou, est-ce que vous, c'était d'abord peut-être la volonté, le plaisir peut-être d'ailleurs de transmettre vos connaissances?
Ça vient de mon histoire personnelle, en fait. Je suis un ex-complotiste qui est tombé du côté lumineux de la force. Mais ça s'est pas fait tout seul. Il y a eu une chaîne d'inspiration qui s'est montée. Et donc moi, mon grand héros, c'est l'exobiologiste et astronome et grand vulgarisateur de science, Carl Sagan, qui m'a fait découvrir la méthode scientifique et qui m'a fait découvrir l'émerveillement qu'on fait face quand on observe des objets de l'univers. C'est ce qui a forgé en moi une vocation de passeur de science.
Quand vous dites « je suis un ex-complotiste », c'est-à-dire cette théorie du complot, elle se manifestait à travers quelles croyances ?
Ça se manifestait à partir de tout ce que je lisais sur Internet ou dans les rayons ésotérisme des bibliothèques. Je savais juste pas faire la distinction entre science et pseudo-science. On m'avait jamais appris. Et pour la première fois de ma vie, avec les documentaires Cosmos et à travers les œuvres de Carl Sagan, j'avais accès pour la première fois de ma vie à cette distinction entre science et pseudo-science à laquelle on m'avait jamais confronté. Et ça a été un peu une révélation pour moi, un choc. Et j'aimerais, à travers ma chaîne aujourd'hui, à travers mes œuvres de vulgarisation, faire transmettre cette chaîne d'inspiration qui peut inspirer d'autres personnes à faire ce pas vers le côté lumineux de la force.
Donc vous êtes une sorte de repenti, ce qui peut-être pourrait faire penser que comme par exemple, je sais pas moi, d'anciens bandits qui se reconvertissent dans la police, qui sont peut-être les mieux placés justement pour faire respecter la loi, vous c'est pour faire reconnaître au mieux la science. Est-ce que c'est un parcours similaire au vôtre, Marion Montaigne? Comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce travail de vulgarisation à travers le travail de la bande dessinée?
Moi, c'est plus un regret. En fait, j'ai hésité dans mon parcours scolaire à faire plutôt de la bio. Et en fait, je pensais que j'étais trop nulle. Il paraît que beaucoup de filles se sous-estiment. Je pense que j'étais complètement là-dedans. Et donc, j'ai fait une autre voie, faute de mieux. Et c'est revenu plus tard. Après, je pouvais pas m'empêcher de me documenter, etc. Et c'est pas, le but, c'était pas d'éduquer la plèbe comme si j'étais supérieure aux autres. C'était surtout de l'enthousiasme. Je me disais, c'est incroyable. On doit, je sais pas, bac plus 6, mais je devrais pouvoir, tout le monde devrait pouvoir avoir accès à des choses extraordinaires. Donc c'était plus de l'enthousiasme, une manière en BD de dire, oh, vous vous rendez compte, on fait ça, mais c'est incroyable, etc. Et de tirer la ficelle. Mais vraiment. C'est juste, moi, c'est un domaine qui, à la base, me fascine. Ouais.
Alors, ce qui est intéressant à travers les deux témoignages qu'on vient d'entendre, Elena Pasquinelli, c'est que ces parcours vers la vulgarisation, ils ont une origine à chaque fois, dans le cas de Sébastien Carasso et dans le cas de Marion Montaigne, c'est ce qui s'est passé au moment de l'école, notamment quand ils étaient, voilà, quand ils étaient étudiants. Est-ce que ça veut dire que la vulgarisation scientifique, elle doit à tout prix démarrer dès le plus jeune âge?
Dès le plus jeune âge, même sous forme d'éducation, même dès la maternelle, si possible. Ça fait partie un peu d'une petite différence, peut-être, dans ma vision, effectivement, de la vulgarisation par rapport à ce qu'on a entendu. Moi, j'y vois un caractère pédagogique fort dans la vulgarisation, une sorte de mission, bien sûr, l'émerveillement, mais aussi cette idée, effectivement, de susciter un intérêt, non seulement pour les sciences, mais pour une pensée plus critique, pour une manière de penser critique, et donc tout un aspect pédagogique que un peu le médiateur incarne des fois sans le savoir. Et s'il n'incarne pas cela jusqu'au bout, il risque effectivement après de faire des passages des connaissances qui partent un peu dans tous les sens, dans la tête de ceux qui les reçoivent.
Mais est-ce que vous diriez que cette nécessité est d'autant plus nécessaire dans cette époque où la science, pas seulement elle, mais la science notamment, est confrontée à cette remise en cause de la parole savante, confrontée aux fake news?
Pas seulement à cause de la remise en cause, mais à cause du fait qu'on est de plus en plus entouré de science. La science produit des connaissances qui sont de plus en plus intéressantes pour tous, utiles. On a besoin de les connaître et de comprendre comment elles sont produites pour arriver à l'exploiter de manière intelligente, à faire confiance à la science d'une façon rationnelle, raisonnée.
La question des fake news, ça remet en cause la façon d'envisager la vulgarisation scientifique, Cécile Michaud. C'est-à-dire que quand il y a de fausses informations, ou en tout cas des croyances qui sont diffusées, on n'est pas seulement dans une forme d'ignorance, il peut y avoir aussi un projet de falsification des savoirs. Est-ce que ça, du coup, modifie la façon de vulgariser?
Je ne suis pas sûre que ça modifie la façon de vulgariser, parce que ceux à qui on s'adresse, c'est pas ceux qui produisent la désinformation, puisque eux, de toute façon, voilà, c'est leur but et on va pas les convaincre. Donc on s'adresse à des gens qui y croient. Alors s'ils croient de bonne foi, eh bien la manière de vulgariser sera la même, d'essayer de leur raconter comment ça se passe. Pour comme dit souvent Étienne Klein, c'est comment la science se fabrique, pour montrer que c'est pas une croyance.
Comment la science se fabrique, ça veut dire que c'est pas forcément des connaissances qu'il faut apporter à son public quand on vulgarise, mais c'est d'abord une méthode scientifique, pour reprendre le titre d'une émission de France Culture, Sébastien Carasso.
Eh ben oui, ce serait intéressant de mettre sur le débat public, comme on le fait très bien ici, la méthode scientifique en avant quand on veut transmettre des savoirs scientifiques. Alors il faut savoir que dans l'histoire de la vulgarisation, il y a eu trois mouvements principaux. Il y a eu depuis le 19e siècle jusqu'en 85, où on était vraiment sur la transmission des savoirs. On considérait les gens comme des coquilles vides qu'il fallait remplir de savoirs et de sagesse scientifique. C'est ce qu'on appelle le modèle du déficit. Et ce modèle du déficit, il est aujourd'hui remis en cause parce qu'il considère que les gens sont des pages blanches, alors que les gens ne sont pas des pages blanches. Ils ont des a priori, ils ont des idéaux, ils ont des convictions politiques, religieuses. Et il faut arriver à déconstruire parfois ces a priori, ou à reconstruire ces a priori à travers la vulgarisation.
Et quand vous dites que ce modèle est remis en cause, il est remis en cause y compris par les scientifiques eux-mêmes?
Alors ce serait bien que ce soit remis en cause plus par les scientifiques eux-mêmes, parce qu'aujourd'hui le modèle du déficit reste le modèle dominant de diffusion des sciences. L'émission qu'on fait aujourd'hui, c'est du modèle du déficit, c'est de la transmission du savoir, on est sur un amphi et on parle à des gens.
Cécile Michaud.
Oui, une des choses les plus étonnantes que j'ai apprises en faisant de la vulgarisation, c'est qu'il n'y a pas de lien entre les connaissances scientifiques des personnes et le fait de croire ou non à des fake news. Il y a eu une étude menée par des sociologues qui a essayé de voir une corrélation entre les études scientifiques qu'avaient fait les gens, le niveau scientifique scolaire des gens, et le fait qu'ils admettaient ou pas la réalité du réchauffement climatique. C'était aux États-Unis. Et il n'y a pas de lien. C'est-à-dire que ce qui permet le plus de prédire si une personne admet ou pas le réchauffement climatique, ce n'est pas son niveau scolaire, c'est son vote. Pour caricaturer, les républicains n'y croient pas, les démocrates y croient. Ce qui veut dire qu'en fait, croire ou pas à une nouvelle scientifique n'est pas une question de connaissance, mais une question de croyance profonde. Typiquement, si j'ai une croyance profonde et qu'on m'apporte une connaissance scientifique qui vient remettre en cause cette croyance profonde, c'est tellement douloureux que j'aurais plutôt tendance à remettre en cause ce résultat scientifique. C'est normal, c'est humain.
Je vous vois acquiescer de Marion Montaigne.
Oui, mais ça me fait penser à un livre qui s'appelle la politique d'autruche, de Marshall, je crois. Il explique tous ces biais psychologiques qui fait que vous aurez beau faire une démonstration parfaite, c'est comme une religion, quoi. Ça, vous en sortez pas.
Mais du coup, il y a quelque chose d'assez insoluble finalement par rapport à ça. C'est-à-dire, Elena Pasquinelli, est-ce qu'il faut en conclure que quand on fait de la vulgarisation, on ne s'adresse qu'à des gens qui sont, si ce n'est convaincus, en tout cas prêts à être convaincus, ceux qui ne le sont pas? Eh ben, on n'arrivera jamais à faire passer son message.
D'où le rôle fondamental des sciences cognitives. Comme ça, j'en fais un peu la publicité. En réalité, ce qu'on voit, c'est que ce ne sont que certaines questions, par exemple, extrêmement polarisantes, qui ont cette réception polarisée. C'est-à-dire, on va réagir sur la base de son idéologie aux questions du climat, mais pas à la découverte du boson de Higgs, qui nous laisse à la limite émerveillés ou totalement indifférents, à raison après des son background. Donc déjà, ça nous permet ce type d'analyse un peu plus fine de où va tomber une information, de réagir de manière un peu plus fine. Si on commence à mieux connaître en tant que vulgarisateur, c'est pour ça que je disais en tant que pédagogue, du coup, comment vont réagir nos auditeurs, parce qu'on sait quels sont les mécanismes qui vont, comme des attracteurs, des aimants dans notre cerveau, attirer une certaine information vers une certaine interprétation plutôt que vers une autre interprétation. On pourra aussi mettre en place des formes de communication plus efficaces et plus capables d'éviter d'être mal interprétées pour des raisons qui sont un peu inévitables.
Mais alors restons justement sur ces deux exemples que vous évoquez, le boson de Higgs et la question du réchauffement climatique. Pour vous, Sébastien Carassou et Marion Montaigne, quel est le sujet qui vous semble le plus nécessité une vulgarisation scientifique, c'est-à-dire celui qui est a priori abscon, le boson de Higgs, ou celui qui est le plus sujet à polémique, c'est-à-dire le réchauffement climatique?
Alors pour moi, il n'y a pas de doute. Je fais une chaîne sur l'astrophysique, mais mon cœur y va vers les sciences de l'environnement et l'urgence climatique auxquelles on fait face aujourd'hui. Il y a quand même des urgences politiques, sociétales, culturelles auxquelles on doit faire face et auxquelles on doit répondre en tant que vulgarisateur. Et moi, ça va probablement modifier ma manière d'interagir et de vulgariser dans les mois qui viennent.
Marion Montaigne.
Moi, je suis dans un schéma quand même de bande dessinée, donc j'ai une autre problématique, c'est que je dois être très concise. Je peux pas faire une BD de 200 pages. Enfin, si, je pourrais. Moi, la physique quantique, c'est très complexe parce que je sais pas le niveau des gens en physique. Est-ce que je dois refaire 6 pages de BD pour expliquer ce qu'est un atome, etc. Donc, c'est j'ai essayé. Moi-même, il faut que je comprenne et je comprends pas toujours. Donc, je sais qu'il y a des sujets comme ça très importants, mais c'est très complexe pour moi en bande dessinée.
Et les sujets qui politiquement sont sensibles. Alors, je parle du réchauffement climatique. On pourrait parler des vaccins aussi.
Ah oui. Et puis l'évolution. Dès que vous faites quelque chose sur l'évolution, vous avez 600 en commentaire. Les gens sont pas d'accord. Moi, déjà, il faudrait que je me documente, énormément pour avoir tous les avis possibles. Donc, je suis un peu une paresseuse. Moi, je choisis des sujets un peu plus moins polémiques. Mais l'évolution, et la sexualité aussi, ça provoque beaucoup des mois.
Elena Pasquinelli.
Je dirais les deux, effectivement. C'est ce qu'on a cherché à faire aussi avec l'ouvrage sur l'esprit critique et l'esprit scientifique. C'est-à-dire que pour arriver à faire comprendre certains aspects de la science, se mettre immédiatement sur des sujets polémiques risque de rendre plus difficile l'écoute. Parce que justement, on réagit avec nos idéologies et avec des blocages. conduire à comprendre les mécanismes à travers lesquels la science produit ses connaissances à travers des thèmes qui ne sont pas sujets à polémique, comme les bosons de Higgs ou des choses plus simples comme les oiseaux, la biodiversité, et conduire lentement à comprendre que les mêmes modalités de fonctionnement, les mêmes stratégies sont à l'œuvre dans la construction des connaissances ou la théorie de l'évolution, permet de démonter une partie de la polémique. Pas toute la polémique, naturellement.
C'est ce que vous expliquez à vos élèves, Cécile Michaud, c'est-à-dire les scientifiques à qui vous prodiguez des cours de vulgarisation, leur disant il faut peut-être démarrer par des sujets qui sont relativement consensuels pour ensuite peut-être aller vers des choses plus complexes.
Non, parce que les scientifiques, eux, ils sont sur un sujet donné. Donc, c'est leur sujet, en général, qui vont vulgariser. Non, ce que je leur apprends, c'est à savoir exactement ce que eux veulent dire, c'est-à-dire à définir leur message. Souvent, ils ont envie de tout dire, tout expliquer leur recherche de A à Z, et ça peut pas tenir. Et l'autre chose que je leur apprends, c'est à connaître leur public. C'est-à-dire, alors, connaître leur public, ils imaginent bien qu'il faut connaître leur niveau. Souvent, parfois, ils surestiment le niveau scolaire, ils visent des niveaux bac scientifiques, ce qui est beaucoup trop élevé si on s'adresse au grand public. Mais ce que je leur dis aussi, c'est que connaître leur public, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est beaucoup plus riche. Il faut connaître leur goût, il faut connaître leurs présupposés sur des notions scientifiques, il faut savoir ce qu'ils lisent, ce qu'ils regardent, pour pouvoir s'appuyer sur leurs références culturelles. Si je prends un exemple, par exemple, sur leurs connaissances scientifiques, si on dit ADN au public, il pense quoi ? Un grand public, un public qui n'a pas de connaissances scientifiques. Il n'est pas vierge là-dessus. Il se dit l'ADN, c'est un truc qui a à voir avec l'hérédité et puis qui sert à trouver le coupable dans les experts. Eh ben, c'est vrai. Enfin, en tout cas, c'est pas faux. C'est pas complet, c'est partiel, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est ce qu'ils pensent et il faut partir de ça. Et c'est super, on peut s'appuyer là-dessus. Donc voilà, il faut absolument connaître le public. Je pense qu'on peut pas être bon vulgarisateur si on est misanthrope, si on ne s'intéresse pas aux gens.
Mais sans aller jusqu'à la misanthropie, connaître son public et le connaître aussi précisément, ça n'est quand même pas évident. Imaginons qu'on fasse une conférence sur un thème aujourd'hui de vulgarisation scientifique, un thème précis. On est à la Sorbonne, le public, on ne le connaît pas précisément, il a l'air assez diversifié ici. J'imagine que, et sur Internet, quand on a une chaîne YouTube comme vous, Sébastien Carassou, et dans le cadre d'une bande dessinée comme pour vous, Marion Montaigne, on ne sait pas précisément à qui on s'adresse ici. Sébastien Carassou.
Alors, sur YouTube, on a la chance d'avoir accès à des outils, de ce qu'on appelle les analytics, qui nous donnent des données démographiques sur les gens qui nous regardent. Moi, je sais, par exemple, que je suis suivi majoritairement par des gens qui sont entre 18 et 44 ans. Voire la majorité, c'est entre 18 et 35 ans. Donc, je sais que je m'adresse à cette tranche d'âge-là. Je sais aussi que je m'adresse à 91% d'hommes. Alors, ça me déprime, mais c'est comme ça. Voilà, je parle pas à des hommes spécialement, je parle à des humains. Mais il se trouve qu'il y a beaucoup de mecs qui m'en regardent.
Donc on en profite pour passer un appel aux femmes qui voudraient rejoindre la chaîne YouTube de Sébastien Carasso.
Donc c'est quand même intéressant d'avoir accès à ces données parce que ça va diriger le niveau de langage que je vais utiliser dans mes vidéos, ça va diriger les références culturelles que je vais utiliser. Je vais pas un GIF, ça va pas être compris par quelqu'un de 18 ans de la même manière que par quelqu'un de 80 ans. Il y a des références que les gens n'ont pas, ou que les gens ont peu, où les gens connaissent mal, et c'est important de garder ces références-là et de les spécifier à un public particulier, parce que ça permet de créer une connexion, un lien avec son public. Et voilà, si la personne dit « j'ai compris ce mème, j'ai compris ce gif, je sais pourquoi il est pertinent », eh ben, y a une petite connexion, une petite sentiment de fierté d'avoir compris ça.
L'interaction, c'est forcément un peu plus compliqué quand on fait de la bande dessinée, Marion Montaigne.
Oui, mais moi aussi, j'ai les moyens avec le blog de savoir quand est-ce que les gens se connectent. Et c'est typiquement des gens au boulot qui n'ont pas envie de s'y mettre. Donc à 10 heures du mat, il y a un pic, 9-10 heures. Ensuite, après, la machine à café. Et après, si je poste après 17 heures, je me fais enguirlander parce que les gens rentrent chez eux. J'ai pas un bureau d'études qui analyse mon public, mais je me dis, bon, c'est à peu près des gens comme moi qui se passent ce qu'ils voient rapido en arrivant au boulot, et je prends un peu ça en compte. Je me dis, un matin, intéresser des gens qui sont peut-être dans des bureaux à CRISPR-Cas9, il va falloir que vraiment je fasse... je me dis, c'est comme si j'avais un pote au bar et je lui expliquais la visite d'un labo que j'ai fait, et souvent, ça... Voilà, c'est comme un ami à qui j'explique. Et ce qui est marrant, c'est qu'avec ensuite l'adaptation en dessin animé, je me suis rendu compte que ça a baissé complètement la tranche d'âge. Je pensais m'adresser à des adultes et en fait, il y a des enfants de 10 ans qui le lisent, donc je suis désolée.
Alors, l'importance du public, on l'a bien comprise. Est-ce que ça signifie, Elena Pasquinelli, et même question à vous, Cécile Michaud, que en fonction justement de la connaissance de son public, on va pouvoir aller plus ou moins loin dans la vulgarisation, c'est-à-dire dans la simplification. Mais peut-être que vous allez me dire que vulgariser, ça n'est pas simplifié. Elena Pasquinelli.
Certainement, ben ça c'est un principe pédagogique fondamental dans le choix des choses qui peuvent être comprises, qui peuvent intéresser, qui peuvent tout simplement être après élaboré par un cerveau. Mais je tiens à ajouter aussi cet élément de connaître comment certaines informations seront aussi retenues ensuite et réutilisées, parce que c'est un warning, c'est un élément d'attention important dans certains types de vulgarisation, notamment sur les questions polarisantes. C'est le fait que, par exemple, à distance de temps, on a tendance tous à oublier d'où vient l'information que j'ai lue quelque part. On a tendance à oublier si c'était une source sérieuse, si c'était Sébastien, par exemple, qui l'a donné, ou si c'était plutôt un complotiste, le cousin de Sébastien, qui est resté sur ses positions anciennes. Mais tout cela va se mélanger à un certain moment dans nos têtes. Et il y a des études qui montrent, par exemple, que quand une source sérieuse présente, même en disant c'est faux, certains un tox, un fox ou fake news, à un certain moment, dans notre tête, s'est fait un mélange. J'ai entendu à la fois l'information A correcte et l'information B non correcte, mais je les ai entendues par une chaîne ou par un médiateur sérieux, donc, à distance de temps, je les crois toutes les deux. Donc, l'importance pour les médiateurs d'avoir aussi la connaissance de ce type d'effet pervers que sa communication pourrait avoir sur le long terme et sur des questions particulièrement importantes comme celle du climat dont on a parlé.
Cécile Michaud.
Je pense qu'on peut aller très loin dans les explications, même avec un public qui ne connaît pas grand-chose au début ou presque rien, même avec un public d'enfants. Ça dépend du temps dont on dispose, ça dépend du type d'information qu'on veut faire passer. Et puis, simplifier, c'est pas forcément mal. D'abord, il y a certains aspects, on peut non pas les simplifier, mais les contourner. On n'est pas obligé de rentrer dans la plus grande difficulté, on n'est pas obligé de faire un cours. C'est vraiment la différence entre la vulgarisation et le cours. D'autre part, les scientifiques eux-mêmes, ils simplifient. Leur modèle, comme ils disent, c'est des simplifications de la réalité. Et puis, par exemple, si je dis la Terre est ronde, c'est vrai ou c'est faux ? Eh ben, en fait, c'est un peu faux. Elle est aplatie au pôle. Est-ce que c'est une simplification acceptable ? Dans l'immense majorité des cas, oui. Et puis dans d'autres cas, eh ben non, je serais obligé de dire qu'elle est aplatie au pôle. Mais est-ce que c'est mal de dire la Terre est ronde, notamment à un public d'enfants ? Non, je pense pas. Donc simplifier, peut-être une très bonne chose. Après, si on induit des fausses idées à cause de ça, ça devient un problème. Mais parfois, c'est aussi le fait de rester complexe qui induit des fausses idées. C'est-à-dire si on veut absolument, par exemple, garder le jargon des scientifiques, eh bien, c'est un jargon qui, en général, donnera des idées fausses.
C'est quoi les limites que vous vous posez, Marion Montaigne, en termes de vulgarisation ? C'est-à-dire jusqu'où vous vous autorisez à aller pour essayer justement d'avoir le message le plus clair possible ? Est-ce que ça peut aller jusqu'à une déformation des savoirs, des connaissances ? Ou bien est-ce que c'est l'exactitude qui est vraiment la frontière qu'il ne faut pas dépasser ?
J'essaie de faire en sorte que ce soit pas totalement faux. Enfin, je trouve qu'il y a une différence entre un peu se tromper. Des fois, quand je convertis des chiffres anglais en miles, etc., si je me trompe, des fois ça m'arrive. Je trouve que c'est autre chose que vraiment déclarer que telle chose n'existe pas. Là, vraiment, c'est de la falsification. Donc, j'ai pas de limite en niveau n'importe quoi, dans le sens où les cellules, je peux leur mettre des jupes ou on peut nager dans la lave. Enfin, j'utilise ce que je veux comme mise en scène. Mais par contre, j'essaye de surtout pas dire des choses extrêmement fausses. Si je m'en rends compte, si je m'excuse et si quelqu'un me le, il y a des fois des chercheurs qui
mais des choses un peu fausses, c'est moins grave.
Des erreurs. Moi, c'est pour ça que je mets les sources, et parce que je pense que les sources, notamment sur le web, il y a des choses. Je fais ce que je peux, mais je pense qu'il y a même des sources sérieuses qui transmettent des vieilles idées, ou même ça évolue. Moi, j'ai fait des notes il y a 10 ans. Je me rends compte que j'ai dit des erreurs sur l'appendice, parce que depuis, on disait que l'appendice ne servait à rien. Maintenant, on commence à comprendre à quoi ça sert. Donc, est-ce que j'ai pas sciemment vous dit...
quand même pas vous reprocher d'aller plus vite que
la musique,
la science, hein, ou moins vite que la science, pardon. Sébastien Carassou.
Moi, je trouve que le rapport à la source est vraiment très important. Déjà par souci de transparence, ce qu'on vulgarise, ça vient pas du Saint-Esprit, ça vient de chercheurs qui ont publié des articles sur le sujet, et donc de remettre les sources de ces articles. Déjà, ça rend à César ce qui appartient à César, et ça permet de créer un lien de confiance avec son public. Il y a aussi une question d'humilité et de dire on a beau être universitaire, on a beau être vulgarisateur, on n'a pas la science infuse. Et pour ça, c'est toujours important de se faire relire, d'avoir un retour critique sur son travail, de pas partir en mode je vais apporter la vérité aux gens, mais je peux aussi me tromper, et je me suis trompé. J'ai écrit des scripts où je me suis trompé dans même en astrophysique, comme quoi, mais j'ai pu faire relire avant de sortir la vidéo à des experts du domaine ou à des groupes de vidéastes qui relisent gratuitement et bénévolement mes scripts, et ça c'est génial. Je sais pas si vous connaissez le Café des Sciences, c'est une association qui compte à peu près 200 vulgarisateurs scientifiques sur tous les formats, que ce soit des blogueurs, des podcasteurs, des vidéastes. Et on a des groupes Facebook qui permettent une autorégulation de la communauté des vidéastes, notamment, pour limiter le nombre d'erreurs scientifiques qu'on peut mettre dans un script. Et le fait d'avoir cette autorégulation et cette remise en question constante, bah, ça fait qu'on peut avoir un petit peu confiance en nous. Mais il ne faut pas avoir d'excès dans la confiance qu'on donne à n'importe quel travail, en fait. C'est important de garder son esprit critique. Mais c'est pour ça que je mets toujours les sources dans la description de mes épisodes, pour que les gens qui veulent aller plus loin peuvent aller plus loin.
Richard Feynman, prix Nobel de physique américain, disait ceci. Alors, en réponse à un journaliste qui lui avait demandé de résumer ses recherches en 2 ou 3 minutes, il avait répondu, ça date, hein, c'était les années 60, je crois, ou 70, « Si je pouvais vous expliquer mes travaux en 2 minutes, ils ne mériteraient pas le prix Nobel. » Cécile Michaud, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas justement peut-être dans cette vulgarisation aussi un peu excessive? Il y a notamment ma thèse en 180 secondes, hein, qui revient donc en 3 minutes à expliquer des travaux qui ont pris des années. Est-ce qu'on n'est pas aussi peut-être poussé vers trop de vulgarisation au point peut-être que tout ce qui constitue la science et les savoirs qui y sont liés sont simplifiés à l'extrême?
Simplifié à l'extrême, je vois pas trop ce que ça veut dire. Là, vous parliez plutôt de trop court.
Ma thèse en 180 secondes, ça semble assez antinomique entre des travaux, je vous dis, qui ont pris des années et un temps extrêmement réduit, qui est de l'ordre de la chaîne d'infos en continu.
Déjà, ma thèse en 180 secondes s'adresse normalement au grand public, mais en fait, souvent, je trouve que c'est même encore un peu compliqué pour le grand public. En 3 minutes, on peut dire beaucoup de choses. On peut pas rentrer dans tous les détails. Souvent, d'ailleurs, les doctorants qui font cet exercice décrivent en gros le contexte de leur recherche, là où ils en sont arrivés quand ils ont démarré leur thèse. C'est rare qu'ils parlent de leurs résultats. N'empêche que moi, alors, c'est un exercice aussi, ma thèse en 180 secondes, qui devient parfois un peu stéréotypé. Mais moi, je suis quand même fan de cet exercice parce que on découvre un nombre de sujets incroyables. On voit la complexité des choses. On se dit, ah, il y a des gens qui bossent là-dessus. J'aurais même pas imaginé. Ça a l'air super intéressant. C'est en gros une ébauche. C'est quelque chose qui va nous permettre d'aller plus loin si on a envie. Mais je pense pas qu'il y ait trop de simplification dedans. C'est juste une introduction à un sujet, en quelque sorte.
Nous tenons peut-être notre premier point de divergence de cette discussion, si j'en juge à la réaction d'Elena Pasquinelli.
Qui lève les sourcils à l'italienne. C'est pas exactement
ça. Ça veut peut-être pas dire la même chose alors en Italie quand on lève les sourcils.
Ça veut dire non, je suis pas d'accord. Pas nécessairement sur la thèse en 3 minutes, qui peut être un exercice qui a du sens. Mais franchement, moi, je suis plutôt inquiète de cette idée de consommation rapide des informations en sciences, où il faut produire effectivement toujours quelque chose de très court parce qu'on n'a pas le temps, et que quand on écrit un livre, on n'a pas le temps et le lecteur n'aura pas le temps, et donc il faut effectivement, bien sûr, bien simplifié, mais des fois, à quel prix? Et souvent, le prix qu'on paye, c'est celui d'expliquer la valeur réelle, par exemple, d'une étude qu'on est en train de reporter, le fait qu'elle se base sur une seule étude, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire un aspect un peu pédagogique sur lequel Je me sens vraiment d'insister. Je fais un exemple rapide, mais je pense parlant aux années 90, on est tous frappés par une information qui fait le tour du monde. Il suffit d'écouter 10 minutes de musique de Mozart pour devenir plus intelligent. C'était une étude qui était parue dans ça suffit pas. C'était une étude parue dans Nature qui, après, est appropriée par tous les journaux au monde. Et ben là, ça fait news, ça fait quelque chose qu'on a envie d'entendre. Or, cette information n'a pas jamais été répliquée. Elle a toute une histoire qui nous montre que la méthodologie de reproduction de la science étant absente, ben, on s'est fait un tout petit peu avoir par la consommation rapide d'une information sans se donner le temps d'aller voir qu'est-ce qu'il y avait derrière. Ceci nous risque de nous arriver souvent, c'est-à-dire d'être happé par des informations scientifiques, les entendre, elles sont récentes, c'est des news. Souvent, on revient en arrière sur tout cela, mais on n'a pas cette culture de chercher à comprendre qu'est-ce qu'est l'information scientifique elle-même et comment la connaissance scientifique elle est produite pour savoir, comme le disait Sébastien, s'y faire confiance ou pas confiance. Donc moi, je suis un peu inquiète d'une consommation rapide de la science parce que j'ai peur que ça passe juste comme des choses qui sont sexy, mais qu'on ne comprenne pas tout ce qu'il y a derrière dans la construction de la connaissance.
Sébastien Carassou, elles durent combien de temps vos vidéos sur votre chaîne
YouTube ? Alors mes vidéos, elles durent entre 7 et 15 minutes. 7 et 15 minutes, c'est court, mais il faut savoir qu'il y a à peu près 3 semaines d'écriture pour 7 minutes de vidéo. Donc il y a un travail de remise en contexte et de trouver l'angle qui permet de rendre ça le plus attractif et le plus fiable possible.
Est-ce que vous essayez d'être sexy et de rendre la science sexy, justement ? Alors, j'essaie d'être sexy, aller dans le spectaculaire.
Je n'y arrive pas, généralement, je suis désolé. Mais j'essaie de rendre ça sexy. Non, mais l'idée, c'est vraiment de toucher des gens qui sont fâchés avec les sciences ou qui n'ont jamais été confrontés à de la science. Et de créer un espèce d'effet waouh, de toujours pas. J'ai quand même un grand travail sur la rigueur des sources sur lesquelles je travaille, enfin j'espère en tout cas. Mais il y a cette volonté que à chaque vidéo qu'on fait, les gens se disent au moins une fois waouh. Et franchement, il y a quelque chose à jouer à ce niveau-là, à jouer sur l'émotion, à jouer sur que ce soit dans une remise en contexte, une remise à l'échelle sur notre place dans l'univers. Voilà, je trouve que c'est vraiment, pour moi, ce qui est le plus important en science, c'est cette remise en question, cette remise à l'échelle de la nature humaine.
Marion Montaigne, le professeur Moustache, joue lui aussi sur l'effet waouh.
Oui, enfin, on parlait par exemple de prendre des exemples, les experts, la pop culture, c'est hyper intéressant parce que moi, je considère que je suis le grand public qui n'a pas pu faire d'aller plus loin dans mes études. Et quand, par exemple, on me propose d'aller dans un labo où il y a des lasers, etc., je me fais une vision magnifique avec un truc énorme comme dans les films, et j'arrive, il y a juste deux bouts d'aluminium, ça fait juste poc, et voilà, il y en a pour 5 heures.
C'est l'inverse de l'effet waouh, justement.
Voilà, et donc je me base là-dessus, j'y vais à fond sur l'image qu'on a hollywoodienne où on se fait des films et la réalité, c'est un super démarrage. Mais pour revenir à ce qu'on disait, j'ai l'impression qu'il y a une envie de pureté de l'information parfaite, mais je trouve que c'est des échelons. Si moi, je me dis, si j'ai réussi moi, ça m'est arrivé de ne pas avoir à faire des sujets trop techniques. Un scientifique m'a juste expliqué de manière très simple. Et après, j'ai commencé à lire des articles. Je vois ça vraiment comme des échelons. Alors oui, ça peut être la thèse en 180 secondes. Puis après, on est moins timide. On a un sujet qui nous a intéressé. Et après, de fil en aiguille, je connais des auteurs de BD qui sont super forts en physique quantique. Je comprends rien, mais c'est en se documentant tout seul, petit à petit. C'est des échelons, je trouve.
Cécile Michaud, sur cette idée d'un effet waouh, est-ce que la vulgarisation n'est pas aussi confrontée du coup à un autre problème qui est celui de rendre la science spectaculaire et peut-être finalement de mythifier aussi les scientifiques et d'avoir un effet totalement contre-productif, c'est-à-dire plutôt que de rapprocher la science du grand public, eh bien on finit par laisser les scientifiques sur leur piédestal.
Alors en fait, ça pose. Je reviens un peu sur ce qu'a dit Hélène Pasqualini parce qu'en fait, je crois qu'on est d'accord. La question là autour de Mozart qui rendrait plus intelligent n'était pas une question de format trop court. C'est une question de mauvais journalisme où des journalistes qui connaissent rien au sujet ou qui ont envie de survendre parce que ça va plaire à leurs lecteurs, à leurs auditeurs. vont pas chercher plus loin que le bout de leur nez et se disent ouais, c'est super, Mozart en intelligence, ça va faire un bon titre, ça, Coco, et puis voilà.
Enfin,
ça,
c'est je veux trouver un peu dur avec les journalistes, il n'y a pas que les
journalistes. Je suis journaliste, donc.
Non, mais ce que je veux dire.
Et donc, il y a du bon journaliste.
C'est la même chose, c'est-à-dire les scientifiques aussi. Survendent parfois certaines nouvelles. Je crois que c'est dans votre livre que j'ai lu, par exemple, la NASA, régulièrement, quand ils doivent renégocier leur budget, et ben c'est en général à ce moment-là qu'ils annoncent de grandes découvertes, quoi.
Oui, le fait que la science soit parfois survendue, c'est dû à tout le monde. C'est dû à certains scientifiques qui font des publis un peu survendus, où ils vont dire qu'il y aura bientôt des applications alors que c'est faux. C'est dû après aux services de com qui en rajoutent une couche. Et c'est dû à nous, journalistes, où souvent on se dit « tiens, c'est pas assez spectaculaire, on va en rajouter un petit peu ». Ou alors on ne va pas faire un vrai travail de journaliste. C'est écrit dans une revue scientifique, donc on va le prendre tel quel. Alors que notre travail de journaliste, il est d'aller vérifier, d'aller demander l'avis à d'autres. Et donc, oui, on peut avoir tendance à survendre. Alors que, on peut avoir un effet waouh sans survendre les choses. Je veux dire, il y a des choses magnifiques qui se font, en astronomie. Enfin, quand on trouve le boson de Higgs, il n'y a pas besoin d'en rajouter pour dire que c'est superbe. Et puis, on va pas non plus chercher tout le temps un effet waouh. Si on parle du réchauffement climatique, ce sera plutôt, attention, faut faire gaffe.
Il faut savoir ne pas aller trop loin dans le spectaculaire, Elena Pasquinelli.
Il faut aller dans le spectaculaire quand c'est spectaculaire, comme on vient de le dire. Le boson de Higgs, effectivement, c'est du spectaculaire, parce que c'est du spectaculaire. La difficulté aussi, des fois, il faut arriver aussi à faire percevoir ça. La difficulté d'arriver à certaines connaissances, la rigueur que cela demande, c'est du spectaculaire qui n'est pas dans l'objet lui-même, des fois, parce que le boson en lui-même, c'est pas spectaculaire. Hein, c'est une bosse sur un graphique. Hein, c'est le pauvre lui-même, c'est un peu tristouné. Mais ce qui est spectaculaire, c'est que nous, et c'est que j'aimerais faire passer des fois aussi aux enfants, et je pense qu'on est tous d'accord sur ça, c'est le spectaculaire de nous avec nos limites, notre petit cerveau. On est sympa, on est suffisamment smart, mais on n'est pas en moyenne. Bon, on fait beaucoup d'erreurs en tant qu'espèce humaine au quotidien. On arrive à connaître le boson de Higgs, on arrive à expliquer l'univers. Ça, pour moi, c'est le waouh maximal. C'est le waouh de l'être humain qui arrive à connaître tout cela.
Et est-ce que le projet de la vulgarisation, c'est de faire qu'un maximum de gens soient capables de comprendre et donc, du coup, peut-être d'expliquer ensuite ce qu'est le boson de Higgs? Ou bien est-ce qu'il faut aussi, accepter le fait que en science, la plupart d'entre nous, je me mets évidemment en premier dedans, ne savent pas grand-chose, Elena Pasquinelli?
La plupart de nous ne sait pas grand-chose, mais peut profiter du spectacle de sa propre espèce. J'appartiens à la même, moi qui ne sais pas grand-chose de science, parce que je suis philosophe, j'appartiens à la même espèce qui a réussi à connaître tout cela et qui va, grâce à l'aide des vulgarisateurs, médiateurs scientifiques que j'ai autour de moi, pouvoir me l'expliquer et me faire comprendre comment ils y sont arrivés. Moi, c'est ça, par exemple, qui me fascine. Comment vous vous êtes arrivés? Vous avez le même pauvre cerveau que moi. Comment vous vous êtes arrivés jusque-là? Et donc, j'aimerais que les médiateurs me prennent par la main et m'accompagnent vraiment à comprendre ça. Non seulement le boson de Higgs, mais comment quelqu'un qui a mon cerveau a pu le connaître? Ça va me rassurer beaucoup, tout cela.
Sébastien Carasso.
Alors, il y a aussi une question très politique dans la vulgarisation scientifique, qui est qu'il y a beaucoup de problèmes dans le monde qui sont soit causés par la science, soit résolus par la science. Et c'est très important d'avoir des relations de confiance entre science et société. Enfin, on met souvent science et société à côté, mais là, c'est normalement la science devrait être en société. La science fait partie de la culture, elle fait partie des productions de l'humanité, de notre patrimoine culturel. Et c'est important de le redire. Mais on doit avoir ce recul sur à quoi sert la science. Et on a des citoyens qui votent aujourd'hui sur des questions technoscientifiques, sur des questions des OGM, du réchauffement climatique, des vaccins, etc. Et on doit leur fournir au moins des informations fiables sur ces sujets. Juste à minima. Ça, ce serait le minimum. Après, l'effet waouh, il est génial, mais juste sur ces questions-là, ce serait pas mal. Et le fait d'avoir cet effet waouh, ça peut kickstarter une curiosité qui n'existe peut-être pas chez les gens.
Ça peut kickstarter une curiosité.
Je ne sais pas comment le dire en français, je suis désolé. Ça peut déclencher, merci. Voilà. Ça peut déclencher cette curiosité.
Il y a les fantômes de la Sorbonne là, qui se réveillent là.
Ça peut déclencher cette curiosité qui n'existait peut-être pas avant et qui pourrait permettre à des gens de s'intéresser à ces sujets très politiques et qui ont une incidence directe sur notre société.
Eh ben voilà, j'espère qu'on aura kickstarté un maximum de gens pour s'intéresser aux questions de vulgarisation scientifique. En tout cas, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Marion Montaigne, Elena Pasquinelli, Sébastien Carassou et Cécile Michaud. Les références bibliographiques, les liens vers les chaînes YouTube, tout ça c'est sur notre chaîne franceculture.fr à la page du Grand Mood. Je voudrais remercier toutes les équipes de la Sorbonne, les équipes de Radio France, à la production Guillaume Rialan, à la technique Gilles Manet, Olivia Branger, Tanguy Le Corneau et Jean-Michel Thuot. Merci à l'équipe du Grain, en particulier à Antoine Tricot et Alexandre Fougeron. Alors demain, sur France Culture, suite de la diffusion de ce forum Les Idées Claires, faut-il renoncer à la vérité? C'est la question que posera Adèle Van Rett dans Les Chemins de la Philosophie. Elle la posera à Jean-Claude Amezen et à Frédéric Worms. Dans la grande table d'Olivia Gesbert, grand entretien avec le réalisateur Éric Rochant qui réalise la série Le Bureau des Légendes. Et puis à 16h, la méthode scientifique de Nicolas Martin, Science, l'ère du doute. Question qu'il aura posée à Bernadette Binsot-Vincent, Gérald Bronner et Étienne Klein. Voilà, encore merci à toutes et à tous. Tout de suite, c'est La Dispute, Arnaud Laporte.